monde. Spectaculaire commence aujourd'hui avec un retard énorme. Il est 14h07 à la pendule de Radio Canu. Christophe Rollin au micro, Gérald est avec moi. Mais c'est une émission très particulière, émission numéro mai 68 en quelque sorte, puisque nous allons parler de la pièce mai, juin, juillet qui est donnée au Théâtre National Populaire actuellement, au TNP, qui d'ailleurs est presque un personnage de cette pièce. Pièce de Denis Guénoun, mise en scène par Christian Scaretti. C'est donné tous les soirs à 19h30 jusqu'au samedi 5 juin. Pour en parler avec nous, Maxime Mention, que nous recevons. Il va nous parler de cette pièce, bien entendu, puis aussi de son parcours et puis de ce qu'il mène actuellement, des activités qu'il a. C'est assez super intéressant. L'émission, comme d'habitude, va terminer à 15h, quoique Blues des Canus ne sera pas là. Alors, est-ce que nous dépasserons? Non, il ne faut pas dépasser, il faut respecter les créneaux horaires, hein, n'est-ce pas, Panorama Hebdo? Donc, nous sommes bien sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM, ou bien, si vous le souhaitez, vous nous écoutez sur Internet. Nous allons commencer avec un des tubes de cette pièce, parce que c'est une pièce pleine de musique, une pièce géniale. Nous commençons donc avec un des tubes de Led Zeppelin, et puis nous continuons. Et voilà, c'est à peu près tout. alors Gérald, tu veux commenter ce morceau?
C'est toi qui vas dire ce que c'était.
Ah ben, c'est... Moi j'ai sous les yeux la pochette de l'album Led Zepp, Mothership, mère ballon, enfin du moins je sais même pas comment appeler cela, et le titre s'appelle Wall Lotta Love, je crois, je sais pas comment il prononcerait ça, c'est en gros beaucoup d'amour, je crois, on vous donne beaucoup d'amour, peut-être qu'on va en donner beaucoup, hein. Maxime, ici présent, Maxime Mention, bonjour.
Bonjour.
Gérald, rappelle-nous, il vient parler notamment de la pièce.
Maxime Mention vient nous parler de mai, juin, juillet, dont la première était hier soir au TNP. Horaire spécial, puisque c'est un spectacle assez long, il me semble de 3h et quelques, mais on voit pas le temps passer, il faut le dire, avec Entracte. Ça commence à 20h, c'était la première hier, 19h30 même. 19h30, du 26 mai au 6 juin, texte de Denis Guénoun, mise en scène par Christian Schiaretti, avec une bonne tripotée d'acteurs, puisque vous êtes une cinquantaine.
Ouais, au plateau, ouais.
Voilà, donc le sous-titre du livre qu'on peut se procurer en bibliothèque, que Christophe n'a pas manqué de se procurer avant même de voir la pièce, aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Le sous-titre de mai, juin, juillet, c'est donc dans les théâtres de 1968.
Et alors, donc ça va être la matière principale. Mais avant cet entretien que nous allons mener avec Maxime, tout d'abord, il faudrait que celui-ci nous donne quelques éléments pour se présenter. C'est-à-dire, qu'a-t-il fait depuis ses premiers pas dans sa Vendée natale? Qu'a-t-il fait qui l'a mené jusqu'à Lyon? Et puis, j'ai cru comprendre, j'ai très bien compris qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'une idée sur qu'est-ce que le texte théâtral? Est-il seulement un objet littéraire ou un objet de jeu? Maxime, s'en prie, c'est à vous la parole pour vous présenter. Et puis indiquer différentes choses, ce que vous souhaitez.
Eh bien, merci. Bah oui, alors moi je m'appelle Maxime Mention. Voilà. Je suis comédien au TNP. J'arrive de La Roche-sur-Yon. J'ai commencé dans un conservatoire et même, je vais même vous dire, j'ai commencé dans une petite salle de théâtre à Landronde où on faisait du théâtre pour le village en patois, s'il vous plaît, en patois. Eh oui. Donc un rapport à la langue très fort. Et après, donc j'ai eu la chance d'intégrer l'ENSAT, que j'ai suivi pendant 3 ans.
C'est dans Lyon, c'est le 5e, 9e, c'est quel arrondissement déjà?
5e.
C'est l'école, sur les pentes, plus ou moins.
C'est à Saint-Ju, ouais. En fait. C'est à Saint-Ju. C'est l'ENSAT, qui veut dire École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Je suis sorti, j'ai intégré la 71e promotion.
Vous auriez pu côtoyer Colin Rey, qui vous a précédé, je crois, c'est ça, il me semble.
C'est ça, ouais.
Oui, une ou deux promotions avant vous,
ouais,
je pense.
Trois, je crois. Trois promotions.
Colin Rey que nous avons reçu il y a deux années et qui est
dans mai, juin, juillet.
Qui joue l'un des directeurs, l'un des personnes qui vous rembarre, je crois, dans les premières répliques. Vous êtes un étudiant canet. Mais bref, nous sommes en train de déflorer le tout début de la pièce. Restons sur vous, Maxime. Donc vous avez intégré l'ENSAT et vous êtes sorti en 2012, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Je suis sorti en 2012 et puis j'ai eu la chance d'intégrer la troupe du TNP à ma sortie. Et d'ailleurs, je suis rentré au moment de la création, de la première création de mai, juin, juillet. Voilà. Et puis depuis, j'ai fait mon chemin avec le TNP. Et j'ai également, maintenant, je co-dirige aussi une compagnie qui s'appelle La Corde Rêve, dont notre premier spectacle était Le Testament de Vanda de Jean-Pierre Siméon.
Jean-Pierre Siméon, comment le qualifier? Poète associé? Je sais
poète.
Quel est son titre?
Un
au
grand
TNP.
Poète. Oui, très grand poète. Dire, et associé au TNP, effectivement, ouais. Ouais.
Est-il l'auteur du texte de Philoctète qui a été donné il y a quelques années avec Laurent Terzieff?
Oui, c'est ça. Ouais.
Quelques mois, je pense, avant sa mort. D'ailleurs, il y a une salle, je crois, au théâtre qui s'appelle la salle Terzieff.
La salle Terzieff.
Dites, j'y pense, Maxime, géographiquement, vous avez un peu bougé avec le TNP, puisque cette pièce, mai, juin, juillet, a été créée en octobre 2012 à Villeurbanne.
C'est ça, ouais.
Vous êtes ensuite allé la donner à
Avignon.
À Avignon.
Théâtre municipal d'Avignon.
En Avignon,
ouais.
Pour le festival.
C'était vraiment formidable.
Et vous la reprenez actuellement.
Et on la reprend maintenant, ouais.
Il y a une autre pièce qui vous a fait également beaucoup voyager, une saison au Congo, dont nous avons déjà parlé avec Olivier Borle il y a quelques temps. Et c'est bien, à Radio Canu, on parle du TNP, mais c'est quand même normal qu'on évoque peut-être plus le TNP que les Célestins, parce qu'il y a quand même un truc, là je vois ces couleurs rouges et puis un peu ce noir. Le TNP s'est quand même placé, politiquement, ça pourrait être un Villeurbanne, voilà, c'est banlieue, on est sur, d'ailleurs, banlieue gauche, hein, c'est ça, plus ou moins.
Rouge, banlieue rouge.
Banlieue rouge. Donc, une saison au Congo vous a fait voyager, hein, il me semble.
Alors, oui, ça c'était vraiment formidable, une équipe génialissime. C'était vraiment très très bien. Alors moi j'ai eu la chance de faire la création, mais je n'ai pas fait la tournée en fait.
C'était où d'ailleurs cette tournée? C'est pour ça que je dis il me semble, je sais plus trop.
Alors, ils sont partis en Martinique je crois, mais moi je n'étais pas avec eux.
Sur les terres d'Aimé Césaire.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Pourquoi avez-vous manqué ça?
Eh bien parce que j'étais sur une autre création qui tournait partout en France avec les Tréteaux de France, et qui s'appelle, c'était l'École des femmes de Molière avec Robin Renucci.
Voilà. Robin Renucci que l'on retrouve dans le rôle de Jean Villard.
Exactement.
Dans cette pièce Mai Juin Juillet.
Ouais.
Oui, mais alors c'est bien, toutes les choses se recoupent un peu, quoique mince.
Oui.
Jute, vous avez manqué cette tournée.
Ah ouais, j'ai manqué la tournée.
Les copains vous en ont parlé, Julien, Damien,
ouais,
Olivier.
Ça c'est clair.
Et alors c'était...
C'est formidable, bien. C'est vraiment génial. Non, mais puis même, je veux dire, ce texte, ce propos, une saison au Congo, c'est,
voilà,
c'est
nous parlons
tout simplement
du texte d'Aimé Césaire.
Ouais, d'Aimé Césaire. Et puis l'équipe était formidable, là aussi. Alors, je ne pourrais pas dire combien on était exactement, mais au moins une trentaine, je pense, au plateau. Ça, c'était vraiment super. Ouais.
Et alors, donc, à côté de cela, vous avez fait le spectacle, vous dites à l'instant, l'École des femmes avec Robin Renucci, mais surtout, je vous ai interrompu alors que vous vous apprêtiez à commencer à parler un peu plus de l'accord de rêve et puis de ce est-ce un festival en acte?
Ouais, c'est ça. Alors, ouais,
avec
donc,
un S à la fin, c'est
moi,
ça.
Je disais, je co-dirige l'accord de rêve avec Elisa Rouchquet aussi, et on a créé un festival qui s'appelle En Acte. Et En Acte, tout récent, voilà, il n'a même pas un an. Et l'idée est assez simple, c'est-à-dire que on souhaite donner l'opportunité à des auteurs, de jeunes auteurs de théâtre, d'écrire pour le plateau, voilà, de les éloigner de la chambre. Donc ils sont encadrés, il y a un cadre très précis, ils ont 5 semaines pour écrire un texte, ils sont libres du choix de leur thème, mais ils doivent toujours faire écho à l'actualité. Ils sont accompagnés d'un metteur en scène. Les auteurs doivent écrire pour maximum une distribution maximum de 5 acteurs. Les acteurs ont 3 semaines pour apprendre le texte. Il y a 1 semaine de répétition et une représentation unique.
C'est la contrainte.
Ah ouais, on va droit au but. L'idée, c'est vraiment aussi de faire une référence vraiment au théâtre de Tréteaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de scénographie, il n'y a pas de régie lumière, dans le sens, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de régie son non plus. On est vraiment sur du théâtre de Tréteaux où le texte prend toute sa force, où la dramaturgie est présente et le jeu surtout intervient, quoi. Est quand même très important. Et puis les acteurs sont libres du choix de leur thème, ça je l'ai dit ça, déjà. Et on a créé du coup de ça est né aussi une maison d'édition qui s'appelle En Acte et qui est assez symbolique. On édite à chaque fois le texte qui a été joué, on édite à 100 d'exemplaires. Et la maison d'édition, lorsque vous venez donc au lavoir public tous les derniers lundis de chaque mois, lorsque vous venez voir la présentation, quand vous achetez votre place, la maison d'édition vous offre le livre de l'auteur qui a été joué le mois précédent. Et voilà, ce texte est aussi illustré. Voilà.
Donc le lavoir public, c'est sur les pentes là.
Ouais, c'est ça.
La rue de Flessel.
Pente. Oui, c'est ça.
L'ancien lavoir, quoi.
Ouais, l'ancien lavoir.
Tout au bout, derrière le lycée Diderot, sur les pentes.
Exactement. Ouais,
j'ai 3 exemplaires sous le nez là. Donc Alison Cosson, Mets tes mains sur la table. Théâtre écriture de plateau, édition En Acte, 3 beaux petits livrets, bleu de Perrine Gérard.
Ah, mais tu n'as pas le prochain...
Grozny, Panzani, Paradis de Samuel Pivot.
Voilà, c'est ça.
Mais tu n'as pas le prochain titre. Hein. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, Maxime.
Et ouais, le dernier qui a eu lieu, donc le titre, c'est La liberté d'expression expliquée aux enfants par les forces de l'ordre, de Pauline Noblecourt.
Et voilà. Est-ce que c'est donné lundi prochain, c'est ça?
Ou alors
c'est
celui-là, il a déjà été donné,
déjà.
En fait. On publie toujours le texte qui a été joué le mois précédent. Voilà. En général, c'est des textes donc, qu'on souhaite aussi d'une durée maximum d'une heure. Ça c'est aussi important, il y a quelque chose de condensé, une expérimentation aussi du plateau, de la langue et aujourd'hui je pense que nous en tout cas, notre génération, c'est une nécessité, on a besoin d'espace pour faire, donc on le fait, voilà.
Et alors, quand est le prochain rendez-vous? Vous avez dit que c'était le dernier lundi de chaque mois,
pour
cause de mai, juin, juillet, il n'y a pas eu, c'était le lundi 20, c'est ça? Il y a lundi 19, je me trompe, lundi 19 mai, disons.
Dernier lundi de mai,
tout.
En tout cas.
Lundi 26, le lundi 25. Lundi 25, en plus, c'était Pentecôte, jour férié.
Voilà.
Donc, ça n'aurait pas dû être, c'est le dernier lundi du mois de mai, puisque le prochain, c'est lundi 1er juin, mais vous n'avez pas pu, en raison de la générale pour mai, juin, juillet.
Exactement.
Donc, décalé au lundi 1er juin, ce qui fait qu'en juin, chouette, il y aura 2 rendez-vous.
Eh oui.
Lundi 1er et puis lundi sera le combien? Le 29, je suppose, un truc comme ça.
Moi, certainement, j'ai pas les dates en tête comme ça. Mais...
Et donc lundi 1er, alors qu'est-ce que c'est?
Alors lundi 1er juin, c'est un texte de Guillaume Caillet. J'ai pas le titre, je peux pas vous le dire là maintenant. C'est une mise au plateau de Clément Carabédian.
Ah d'accord.
Voilà, il y a donc
comédien de la troupe du TNP.
Aussi, voilà, également comédien de la troupe qui fait donc la mise au plateau. Il y a 5 acteurs et faut aussi savoir que dans les nombreuses règles qui encadrent en acte, on donne la possibilité aussi aux auteurs et du coup aux metteurs en scène de faire appel à des musiciens tant qu'ils le souhaitent. Donc il y aura aussi un musicien.
Il y a beaucoup de contraintes, mais il y a quand même
Beaucoup de contraintes, mais beaucoup de plaisir finalement.
Gérald, est-ce que ça ressemble à une sorte de d'outépo? Ce serait un ouvrage de théâtre.
Ça a déjà été fait à mon avis.
Ouvrage de théâtre potentiel.
Ça existe déjà,
ça doit exister. Et alors, vous êtes serez-vous sur scène pour ce lundi prochain ou vous ne faites qu'organiser?
Non, moi je fais tout le travail, tout ce qui se passe dans l'ombre, c'est-à-dire je m'occupe de toute la mise en page, de toute l'organisation.
De beaux aussi. Objets d'ailleurs, les livres sont bien, c'est du beau papier.
Merci, ouais. Bon, on essaye de faire les
avec
choses
avec une typographie, une police assez rétro, un peu Olivetti,
mais au moins très lisible. Là pour le coup.
Ah oui, très lisible. Écrit gros, avec certains qui sont illustrés.
Ah ben ils sont tous illustrés.
Tous illustrés.
Tous. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été
d'accord.
Illustré.
Ah oui.
Ah ouais. L'idée c'est aussi quand même de créer un endroit de rencontre, vraiment de plateforme où on peut travailler ensemble. C'est-à-dire que la distribution se fait vraiment au dernier moment. Voilà, on ne sait pas quel texte va être, on ne sait pas dont va parler l'auteur, on ne sait pas de quoi il va avoir besoin exactement. Du coup, la distribution se fait au dernier moment. Ça amène aussi les metteurs en scène à aller travailler avec des gens à qui ils n'ont jamais travaillé en fait. Donc l'idée c'est aussi de se dire, nous aujourd'hui là, le théâtre lyonnais, croisons-nous sur le plateau à travers des œuvres de jeunes auteurs et puis expérimentons ensemble en fait. Mmh. Donc c'est un lieu que je souhaite aussi de rencontre, une plateforme de rencontre. Entre autres aussi avec des illustrateurs. Voilà.
Ah mais le nom du festival est très net. En acte, c'est à la fois donc ce jeu de mots sur une pièce et un ensemble est un texte divisé en scènes, certes, mais les scènes elles-mêmes sont regroupées dans des actes. Mais voilà. C'est aussi cette idée d'action, voilà, de faisons des choses.
Ouais.
On met les mains dans le cambouis, c'est ça, Gérald. Oui.
Pour plus de renseignements, il faut chercher la voie publique pour les horaires, etc.
Exactement. Ouais. Vous aurez les horaires sur la voie publique.
Oh, il y a également un site, hein, je crois, sur l'accord de rêve et en acte. Il me semble qu'il y a
exactement. Ouais. On a l'accord de rêve, mais dans le site de l'accord de rêve. Vous aurez un petit onglet qui ira directement sur le site de En Acte.
Je me demande si depuis le début je ne tombe pas dans le jeu de mots en disant la corde raide. Non, c'est bien la corde rêve. R-E accent circonflexe V-E, c'est bien un rêve et non pas, il ne s'agit pas de pendaison ou de choses absolument terribles.
Alors.
Gérald, tu es déjà en train de parcourir la quatrième de couverture de cette pièce de Denis Guénoun. Est-ce que, Maxime, nous avons un peu fait le tour? Non, il faut encore annoncer au moins cela, c'est que ce festival sera repris en un festival qui sera peut-être plus réduit.
Condensé.
Ce ne sera pas sur. Là, c'était sur toute cette année, toute cette saison.
C'est toute la saison. En fait, le Lavoir Public fonctionne en collection. Donc, on a fait octobre, novembre, décembre, janvier. Et là, on fait mars, avril, mai, juin. Donc, ça fait 8 pièces écrites dans cette année-là.
Et cet ensemble sera redonné.
Et cet ensemble, voilà, sera redonné au Théâtre de l'Opprimé à Paris la dernière semaine de janvier 2016 et la première semaine de février 2016. On monte avec les 8 pièces. Il y aura 24 représentations, une quarantaine de comédiens qui montent sur Paris pour défendre l'écriture aujourd'hui.
Voilà. On signale tout de même la chose, si des mécènes souhaitent se manifester.
Ah oui, alors là, on est
tout à fait
ouvert. Tous mécènes, évidemment, contactés par mail.
Je crois que c'est Maxime Mention, tout accroché, sans E, gmail.com,
c'est ça.
Il y a d'autres coordonnées, je suppose.
Sur le site de la compagnie, sur l'accord de rêve, il y a toutes les coordonnées pour tous les mécènes intéressés.
Oui, si vous souhaitez participer à ce projet. Est-ce qu'il y a déjà une billetterie en place? Est-ce que les choses sont déjà bien avancées ou...
Non, pour le moment, il n'y a pas de billetterie en place. On va y aller étape par étape. On va d'abord finir cette saison-là.
Oui, là, nous
commencer la prochaine
en mai,
parce que
vous annoncez janvier. Oui.
Ouais, on va commencer la prochaine. On espère. En tout cas, il y aurait certainement une deuxième édition du festival l'année prochaine. Donc, ça continuera toujours à l'avoir public les derniers lundis de chaque mois. Et voilà.
Est-il temps, puisque le festival de Cannes a eu lieu dernièrement, d'entendre c'est qui? C'est Jean-Luc Godard, c'est ça? Et puis il y a aussi Roman Polanski, je vois. Et puis François Truffaut et même Claude Berry, je crois. On les écoute, oui. Et comme ça, ça fait introduction sur cette pièce mai, juin, juillet qui traite, bien entendu. As-tu lu le sous-titre tout à l'heure, Gérald?
Du théâtre, tous les événements qui se sont passés dans les théâtres.
De 1968.
En 1968, mai, juin, juillet. Commencer par l'Odéon et jusqu'à toutes les salles de France, en fait.
Ouais.
Voilà, alors on va écouter du cinéma, mais nous parlons bien de théâtre, puisque cette pièce est donnée au TNP avec un horaire particulier, 19h30, tous les soirs.
Jusqu'au 3h40
samedi,
avec un entracte.
Jusqu'au samedi 5 juin.
Il y a 47 comédiens, à certains moments, sur scène.
Et c'est très bien. Hein.
Et c'est impressionnant.
Il faut le dire. Allez-y, allez voir cette pièce. C'est une excellente pièce et on va
c'est très pédagogique.
On va en parler tout de suite.
Et en même temps poétique.
De la pédagogie. Écoutons ce que disent Godard, Truffaut, Polanski du cinéma et après on parlera de théâtre.
Vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travail et gros plans. Vous êtes pas
c'est ce que je vais dire. Vous voulez arrêter les festivals, arrêtez les festivals. Mais si vous voulez continuer les projections, qui saura que les festivals s'arrêtent?
Laissez-moi parler une seconde. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à prendre.
Ne poussez pas.
Si cette chose est concertée, écoutez, monsieur Danon, vous prenez le bulletin du festival. Il est paru aujourd'hui. Il y a une page entière qu'on a pris, payée. Vous voyez bien qu'on n'est pas venu faire un scandale ou quoi. La question n'est pas là. Il y a des événements en France. On ne peut pas les ignorer. C'est tout. Vous devriez être avec nous.
Mais Claude, personne n'ignore.
C'est tout.
Mais Claude, vous devriez être avec nous, je crois. Oui. C'est ce qui me semblait demander.
C'est troublant parce que ce soit le cinéma ou le théâtre, on retrouve cette ambiance assez énervée. En même temps, respect de la parole parce qu'on les entend bien parler.
Alors, c'est ce que montre à l'instant cet extrait et c'est ce que montre cette pièce, mai-juin-juillet, de Denis Guénoun, une pièce très récente, 2012. Une commande d'ailleurs qui a été passée par le TNP à cet auteur, à ce dramaturge, qui est d'ailleurs présent sur scène, c'est une femme. Enfin bref, beaucoup d'éléments à dire, beaucoup de choses, beaucoup de pédagogie.
Par Denis Guénoun peut-être, rapidement.
Je t'en prie, ensuite nous cédons la parole à Maxime Mention, qui incarne plusieurs rôles dans cette pièce. D'ailleurs, un rôle très intéressant au tout début, une sorte de rôle clé, puisqu'il permet de comprendre la situation. C'est un étudiant qui débarque quelque part et qui pose différentes questions et qui appelle forcément des réponses. Oui, Gérald, une présentation.
Donc Denis Guénoun, né en 1946 à Orange, il a plaquette, mais c'est important de savoir qui c'est, parce qu'il est pas sans coup d'essai, il a écrit plein de choses et mis en scène plein de pièces. Comédien, écrivain, metteur en scène, et aussi agrégé de philo et professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne. Et il a fondé la compagnie de l'attroupement en 1975, puis celle du Grand Nuage de Magellan en 83. Directeur du Centre Dramatique National de Reims, et ben on reparlera de Reims tout à l'heure, de 86 à 90. Donc des mises en scène, on peut citer tout ce que j'ai dit, le banquet de Platon, l'augmentation de Georges Perec, on avait reçu Colaret pour une autre mise en scène de cette pièce. Joué en chinois au Grand Théâtre de Shanghai en 2010, et Arthur Barrault. Ensuite, auteur de nombreuses pièces, l'Énéide, le Printemps, Russe, Ruth éveillée, tout ce que je dis, le Citoyen, mai, juin, juillet, ouvrage philosophique, le théâtre est-il nécessaire? Avez-vous lu Reza, Livraison et délivrance, les Confessions de Saint-Augustin, qu'est-ce que le temps?
Allez, attention Gérard.
Demeure fragile de Novarina et... Vive l'art quand il ignore son nom, correspondance, Gaston Chessac, Jean Dubuffet.
Attention Gérald à l'art de la lecture, hein, qui est une pratique que nous ne voulons pas, à laquelle nous ne souhaitons pas tout à fait.
Un auteur prolifique.
Et néanmoins, les titres des pièces sont intéressants, puisque tu viens d'évoquer à l'instant une correspondance. Ça peut faire peut-être la matière d'une première question à Maxime, même d'ailleurs, et en fait, il y a une autre question qui a été lancée sur cet étudiant qui arrive au tout début. Enfin, même d'ailleurs, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Là, tu évoques, Gérald, une correspondance entre Chessac et Dubuffet. C'est ça. La pièce, on peut l'indiquer, est une pièce qui évoque, que ce soit au début, à la fin, puis parfois un peu au milieu, une correspondance fictive qui aurait été écrite, qui aurait été faite entre Jean-Louis Barrault, directeur du théâtre de l'Odéon.
Incarné par Marcel Bozonnet.
C'est assez intéressant, qui a été directeur de la comédie, enfin non, c'est administrateur, je crois, le terme, de la Comédie française il y a de cela quelques années. Et l'autre, Jean Villard, est incarné par Robin Renucci, qui se retrouve avec les Tréteaux de France notamment. Donc bref, Maxime, ça c'était la correspondance. Vous, quand vous arrivez, c'est d'ailleurs un rôle intéressant. Vous êtes un étudiant canet qui débarque. Peut-être que ça pourrait permettre un peu de présenter cette pièce mai, juin, juillet, qui est donc certes mai 68. Cet étudiant, alors, c'est... Il débarque et il n'a pas tout saisi, c'est ça? Enfin...
Ah, ouais.
Et donc, ça. Vous jouez plusieurs rôles. Hein. Tu as lancé à l'instant, Gérald, en disant Reims. Vous êtes également directeur de Reims. Donc, je vous en prie, commencez par ce premier rôle.
Bien, ouais.
Sur cet étudiant.
Alors, au départ, on commence d'abord par, par la prise de l'Odéon, en fait, en 68, à Paris. Et donc, c'est le moment où les étudiants envahissent l'Odéon. Et il y a le rôle que je représente, donc, ce jeune homme qui arrive de Caen.
Avec un sac à dos.
Avec son sac à dos.
Et
qui est complètement subjugué d'ailleurs par la beauté du lieu, enfin c'est voilà, et qui comprend pas ce qui se passe, enfin c'est-à-dire il a entendu les événements à la radio, il voit qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a quelque chose qui prend, mais il ne sait pas quoi réellement, donc il décide d'aller à Paris, il se retrouve là au milieu de tout le monde et il commence à se dire mais pourquoi en fait, pourquoi voilà principalement question qu'il pose quoi, et puis au fur et à mesure du coup ça permet vraiment d'avoir aussi une introduction avant de déployer la raison en fait de cet événement, de comment elle est née.
Et alors, pour lier cela à ce que vous disiez tout à l'heure, à la chose théâtrale, comment ce texte, donc, je ne sais même pas quel terme
se
utiliser.
Se déploie.
Comment est-ce que ça prend place? Comment est-ce que ça se met en scène? Attention, moi, Gérald, j'en suis qu'au moment pour l'instant de cet étudiant. Parce que là, pour le coup, scénographiquement, enfin, du moins, c'est assez stupéfiant. Oui. Personnages interviennent sur des portes latérales. Voilà. Et vous êtes vraiment noyé dans tout cette. Non, quoi qu'ils sont à vos côtés aussi,
c'est-à-dire,
je crois.
En fait, c'est-à-dire que.
Il y a un travail de plateau qui
voilà, ouais, en fait, on centre sur l'image. Là, Christian Scaretti a vraiment utilisé aussi le lieu tel qu'il est. Enfin, le TNP a vraiment profité aussi de son architecture, et ce qui fait que en fait cet étudiant que je représente se retrouve au milieu un peu seul d'ailleurs, un peu perdu, à poser toutes ces questions à tous ses camarades qui l'entourent, en fait, qui sont sur les balcons, sur tous les âges, qui occupent tout le théâtre en fait.
Ça peut vous parler, non? J'y pense, cette scénographie-là, c'est le terme que je viens d'utiliser. Il y a quand même peu d'objets de décor. Il y a des chaises, c'est ça? Il y a des tréteaux, qui sont d'ailleurs, qui deviennent un bureau pour la deuxième partie. Oui. Et sinon, aussi, il y a les portes latérales. Là, pour le coup, si, c'est un objet de, un truc assez étrange. C'est sorte, au début, on ne sait pas que ce sont des portes qui s'ouvrent, et puis chacun.
Alors ça fait partie, les portes qu'il y a sur le côté font vraiment partie aussi d'une continuité de l'architecture du TNP. Donc, ça se fond vraiment aussi dans, il y a comme quelque
une
chose.
Continuité.
Ouais, il y a une continuité, voilà. C'est-à-dire que la salle continue sur le plateau, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a ce choix aussi que moi, je trouve vraiment magnifique aussi, quelque chose d'assez épuré, c'est-à-dire d'un plateau quand même pratiquement nu, vraiment,
et chargé d'acteurs quand même.
Et ça c'est super, c'est que je trouve qu'on voit peu ça aujourd'hui, c'est une vraie force, c'est-à-dire une quarantaine de personnes au plateau. Aujourd'hui c'est rare,
surgissent régulièrement,
ouais, voilà.
Pour nous,
c'est des corps qui créent les espaces, qui racontent cette histoire, notre histoire en fait aussi quand même. Et moi, je trouve ça vraiment superbe, quoi.
C'est le théâtre dans le théâtre, en gros, dispositif avec des chaises qui sont...
Exactement, ouais.
J'avais
une
petite crainte, je me disais, zut, il y a peu d'éléments de décor, mais peut-être que tout de même, ce peu va tout de même choquer Maxime, qui est donc adepte avec le Festival en Acte d'une épuration totale.
Non, adepte, je sais pas, c'est très intéressant, enfin moi, j'aime beaucoup.
Ouais. Les costumes des comédiens sont... c'est banal, en fait.
Ah, il y a beaucoup de jeans, hein.
Oui, il y a pas mal de jeans.
Il y a du jean.
Ouais, c'est des images, quoi. Enfin, c'est des références comme ça. On va pas dessiner vraiment, rentrer vraiment dans le style de l'époque.
Reconstitution.
Il y a pas reconstitution. Ouais. On représente la jeunesse de l'époque. Donc, on va pas choisir vraiment dans le particulier certains, tous les personnages, en fait. On est vraiment un cœur, en fait.
Et alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez prononcé son nom, je l'avais également donné en début d'émission, Christian Schiaretti, qui est le directeur actuel du TNP, du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, qui est aussi donc metteur en scène. D'ailleurs, cette idée est assez exploitée dans la deuxième partie de cette pièce, la partie de juin, dans laquelle sont réunis des directeurs de théâtre. Vous-même jouez Reims. Donc, peut-être avant d'aborder cette deuxième partie, ce rôle de Christian Schiaretti, comment est-ce que cela a fonctionné avec vous? Est-ce qu'il s'est montré très autoritaire, a donné beaucoup d'indications, beaucoup de directives? Ou alors, est-ce qu'il a une certaine part, non pas tant à l'improvisation, mais est-ce qu'il a une certaine liberté accordée? Enfin, comment cela a fonctionné? D'ailleurs, même concrètement, vous avez travaillé ce texte, peut-être pour la première, si on repart en 2012, c'était quoi le travail de tout un été? Il fallait déjà lire ce texte, se l'approprier.
Je ne saurais pas vraiment comment répondre en fait à la question.
Ouais, mais c'est même pas vraiment une question. Quel est le travail de Christian Schiaretti et comment ça fonctionne? Comment cela est passé notamment avec vous?
Avec moi, en tout cas, moi, la façon dont je le reçois, c'est un travail de transmission en fait, surtout. Parce que c'est vrai que, alors, je maîtrise pas encore suffisamment bien le sujet je suis encore dans l'apprentissage. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé en fait. Voilà, Christian, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui partage vraiment sa pensée. Et d'ailleurs, on voit bien là, on en parlait quand on avait fait la générale. C'est vraiment que voilà, ce spectacle-là, c'est effectivement de la pensée qui se déploie aussi. Et c'est aussi ça la force du théâtre. Et c'est un échange. C'est vraiment un échange. Moi, j'ai beaucoup appris. Mais 68, pour moi,
c'est ça. Vous êtes des jeunes comédiens qui n'avaient pas connu.
Qu'est-ce que en fait, voilà,
alors
c'était quoi en
eux,
fait
voilà, Schiaretti a dû connaître.
Ben voilà, oui. non. Et puis, moi, mes parents ont dû le vivre un peu, mais alors...
ils ont disparu.
Ils sont pas allés à Paris pour aller voir ce que c'était, non, tu vois. Voilà. Et puis, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous a été légué aussi de ça? Et, Et c'est assez important parce que c'est vrai que là c'est aussi mettre le théâtre à l'endroit de sa force, enfin du politique quoi, une parole politique. Et voilà, moi j'en sors vraiment grandi en tout cas de ça, de toutes ces discussions.
Et alors on parle voilà de discussions dans cette deuxième partie, vous incarnez un des directeurs de théâtre puisque la pièce est tout de même organisée, donc il y a bien on pourrait dire une pièce classique en trois actes. C'était peut-être davantage cinq actes, les pièces de Racine et Corneille. Donc trois actes qui sont d'ailleurs bien les trois mots du titre. Mai, première partie, juin, deuxième partie, et juillet, troisième partie. Et il y a plus ou moins une idée directrice dans chacune de ces parties. La première, ce sont les étudiants qui se retrouvent, notamment, pas seulement, il y a aussi une chrétienne, un ouvrier, un policier qui se retrouve à l'intérieur de l'Odéon. Deuxième partie, les directeurs de théâtre. Et puis troisième partie, c'est... une sorte de double jeu avec Jean Villard qui rencontre à Avignon au mois de juillet, qui rencontre des groupes de jeunes très peu nombreux. Ils sont, ben d'ailleurs, vous incarnez Michel, c'est ça?
Michel.
Avec un joli débardeur.
Oui, très joli débardeur vert et des longs cheveux.
Voilà, c'est ça. Il y a des allégories aussi qui interviennent. Avec
14 directeurs de théâtre dans la deuxième partie.
Et voilà.
Troisième partie avec des allégories.
La révolution et la poésie.
La poésie et la révolution.
Mm-hmm.
Ne pas oublier les duos avec Malraux et De Gaulle, qui sont souvent hilarantes.
Philippe
dans
Vincent,
la diction
et Stéphane
dans le travail de la voix. Apparaissent aussi ministre de l'Information.
C'est Pompidou, attention, tu as lancé Malraux, c'est plutôt Pompidou.
Oui, mais il y a aussi Malraux.
Il joue aussi Malraux.
Et il y a Pompidou, bien sûr, et 14 directeurs de théâtre.
Et donc, dans cette deuxième partie, vous incarnez l'un de ces 14 directeurs, aux côtés de Jean d'Asté, que tu connais Gérald, enfin disons que tu connais, figure que tu connais, puisque c'est une illustre figure stéphanoise. Il y a également Roger Planchon, incarné par Olivier Borle.
Exactement.
Il y a aussi Francis Janson. Je cherchais la déclaration, le manifeste de Villeurbanne, et c'est lui qui l'a donc rédigé, je crois.
Oui, c'est ça. Voilà.
Ce texte
c'est proposé, en tout cas, la déclaration de Villeurbanne.
Et les positions sont-elles assez tranchées? Vous, Reims, je ne me souviens plus. Quelles sont vos répliques? Quelle est votre attitude?
Alors, moi, c'est vrai que moi, à ce moment-là, le rôle que je joue, je ne sais pas si. Il développe pas vraiment, en fait, lui par exemple à ce moment-là développe pas vraiment l'idée, en tout cas dans l'écriture de Denis, c'est-à-dire il est là, bon, en fait ceux qui développent vraiment l'idée, c'est-à-dire c'est Roger Planchon qui est quand même une grande figure à ce moment-là, qui est déjà très important dans le théâtre français, et justement Janson, en fait il y a cette opposition là qui se fait. Voilà, après Reims fait partie de l'ensemble de cette réunion qui s'est passée à Villeurbanne.
André Méral.
Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et qui était à Reims. Et pour l'histoire, en fait, c'est que a priori, donc quand il devait s'occuper de la Maison de la Culture, et en rentrant justement de cette réunion, il a été gentiment remercié.
Oui, c'est arrivé à Jean-Louis Barrault également, même pendant les événements. C'est je crois, courant juin. Et quant à Jean Villard, lui, c'est sa vie qui s'est abrégée peu de temps après.
Ouais, exactement.
Alors donc, si vous n'avez peut-être pas beaucoup de choses à indiquer, à donner sur Reims, pourriez-vous peut-être davantage parler de Michel? Vous êtes-vous peut-être reconnu dans ce rôle? C'est toujours la question à poser aux acteurs et comédiens. Quelle part y a-t-il de vécu ou je ne sais? Non. Tout d'abord, peut-être pourriez-vous décrire le Michel avec, donc c'est ça, vous avez indiqué ces beaux cheveux longs.
Ouais, voilà, ouais.
Un peu tiche.
Ouais, c'est ça, là du coup, on présente vraiment... c'est Michel, quoi. Michel, qui est accompagné de Georges et de Claire, qui arrive à Avignon, et avec d'ailleurs une autre camarade à eux, qui rencontre d'abord, en fait, Villard. Et ensuite, donc, Georges, Michel et Claire viennent et souhaitent parler un peu de l'état du théâtre, en tout cas, de ce qui se passe dehors. La police a priori a chargé, etc. Michel pose la question aussi du théâtre d'Avignon et demande. Monsieur Villard reconnaît son festival, qui a priori devenu un supermarché de la culture.
Voilà, et Jean Villard vous remballe en disant « Jeune homme, vous l'avez trouvé où ce terme ?» Dans un prospectus,
dans un prospectus.
C'est ça.
Voilà. Et après, ce qu'il dit aussi après est vraiment magnifique. Faut le découvrir, faut aller l'écouter, ça. Mais voilà, et puis à un moment donné aussi, où Michel et donc Georges aussi font référence à Julianne Beck, qui jouait à ce moment-là, qui a été invitée au Festival d'Avignon à ce moment-là.
Avec Paradise
Now.
La fameuse troupe américaine.
Voilà, c'est ça. Du Living Theater.
Ouais.
Voilà. Et donc voilà, ça c'est...
Une autre forme de théâtre.
Et voilà,
une nouvelle forme de théâtre.
Une nouvelle forme de théâtre, en tout cas. Il y a encore, voilà, qui a vraiment impacté très fort. le théâtre aujourd'hui, qui continue de l'impacter, en posant les questions de la liberté, de la place du théâtre,
du rapport au spectateur,
le rapport au spectateur, le fait de mettre l'acteur aussi en avant, c'était des communautés, la question du texte du coup aussi disparaissait petit à petit. Voilà, après le Living Theater quoi à ce moment-là. Donc Julianne Weck, cheveux longs aussi, torse
qui réalise les utopies. Alors il y a des utopies qui sont réalisées concrètement en 68.
Alors je sais pas trop.
Et d'autres qui sont restés à état d'utopie, je pense.
Ouais, c'est un peu. Moi je saurais pas trop dire exactement en fait, encore décrire exactement ce qu'a fait le Living Theater. Ils sont vraiment posé des questions vis-à-vis du théâtre, ça c'est sûr. Ils ont commencé. Ils ont été très inspirés au bout d'un moment en fait par la pensée d'Artaud. Et voilà, c'est là où Paradise Now par exemple, il y avait plus vraiment de frontières en fait entre le théâtre, c'est-à-dire ce qui est représenté, ce qui se fait là maintenant, l'édifice de planches là où on vient jouer, parler du monde aussi, et puis la salle, c'est-à-dire tout se mélangeait, les gens pouvaient venir aussi parler, dire ce qu'ils avaient à dire à cet endroit-là. J'y étais pas, hein, mais de ce que j'en ai vu,
il y a un film à la part Dieu qui a été fait. C'est un des premiers films d'un grand cinéaste. Je pensais à Scorsese, mais c'est pas lui. C'est la même veine, un cinéaste américain. C'est pas Scorsese, c'est l'autre qui filme une pièce du Living Theater. On les voit, enfin sortir complètement de la salle.
Ouais.
Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vachement intéressant.
À retrouver, moi, Coppola, oui. Non?
C'est Coppola, voilà. C'est un des premiers Coppola. Il filme Living Theater avec plusieurs caméras. C'est très intéressant. On trouve ça à la part Dieu.
Alors c'est intéressant, ça fait une sorte de mise en abyme, puisque est évoqué dans cette pièce Mai Juin Juillet de Denis Guénoun, est évoqué donc le Living Theater qui eux-mêmes voulaient plus ou moins, disons, abolir les frontières et enfin disons et donner la parole à tout le monde. C'est un peu ce qui se passe dans la pièce elle-même, puisque la parole est donnée un peu à tout le monde. Et puis je crois que c'est Francis Janson, Bourgogne, directeur de Bourgogne, qui s'adresse au public, ou c'est également Olivier Borde, je crois, qu'est-ce qu'il a fait, il a donné une claque à
un
spectateur,
un ouvreur, il parle du fait qu'on que ce sont des maisons de théâtre et qu'il y a aussi du personnel. Voilà, et c'est là où Ariane Mnouchkine entre et dit je n'ai pas de personnel, mais des compagnons.
C'est Ariane Mnouchkine,
voilà. Exactement.
Oui, qui arrive à la fin aussi du spectacle.
Il y a aussi Cohn-Bendit, Danny, qu'on voit apparaître avec cette perruque. Et là encore, je parlais de mise en abîme. Damien Gouy retire sa perruque, dans un.
Oui, parce qu'en fait, ils prennent l'Odéon, ils commencent à l'appeler, à dire que c'est plus l'Odéon. C'est-à-dire que maintenant, c'est la maison de la libre parole pour tous. C'est l'ex-Odéon. Et voilà, il pose la question, il dit voilà, mais qu'est-ce que le théâtre, hein, c'est-à-dire des gens, voilà, de la vie enfermée sur la scène, des gens qui bougent sur la scène, et puis des gens assis dans l'ombre gentiment, voilà. Et du coup il arrive et ici nous ne sommes plus au théâtre, et du coup on joue avec ça, où il y a effectivement Damien qui enlève sa perruque, il dit c'est fini le théâtre, c'est fini, il n'y a plus de théâtre, voilà. Donc toute la question c'est
l'Odéon esprit est occupé pour un symbole de collusion, on va dire, avec le pouvoir de l'époque.
Ouais, exactement.
Par opposition avec d'autres scènes nationales, l'Odéon était dans les petits papiers, on va dire.
C'était le Théâtre de France, en fait.
Donc c'est pas pour rien qu'ils ont commencé par l'occuper, lui.
Exactement, voilà. Ils ont choisi vraiment d'aller occuper là, d'aller occuper l'Odéon, quoi. Et
puis, c'est dommage qu'ils aient chié dans les costumes, quand même.
Ouais, c'est quand même dommage. Et puis c'est partout, ouais.
J'y pense aussi, c'est donc encore un propos tenu par Francis Janson, le directeur de Bourgogne, quand il parle de ce qu'il faut faire pour le théâtre. C'est donc certes tenir compte du public, mais également tenir compte du non-public. Et je crois qu'il y a une phrase qui est, si on les perd, on perd tout, disons, on va rater notre idée. Un peu de musique, messieurs, un peu de pause. Écoutons donc, faisons comme fait, je crois, Jean-Louis Barrault vers la fin de la première partie. C'est pas la toute fin, il me semble. Alors, si, c'est peut-être la fin.
Ah, si, c'est pratiquement la fin de la première partie.
Fin de la première partie. Il invite le jeune Paul. C'est assez amusant, les prénoms qui sont souvent donnés. On peut ensuite reconnaître. Paul Tortelier, on peut reconnaître. Il y a Antoine qui est évoqué plusieurs fois. Je crois que c'est Antoine Vitesse. Il y a différents.
Gérard. Marceau Beyer sur la scène.
Je crois pas, mais.
Il y a un Gérard, non, mais disons, les noms de famille ne sont pas donnés. Il y a un Gérard qui est évoqué. Moi, il me semble que c'est Gérard Philippe. Je crois bien.
Oula, alors là, je ne m'avancerai pas.
Quand Jean Villard dit qu'il a vu danser.
Ah oui, Gérard, bien sûr.
Il a vu danser Gérard.
À la foule. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, il y a des prénoms comme ça qui sont lancés.
Le petit Antoine, vous parlez du petit Antoine à Juillet, c'est ça? Qui parle en Juillet.
Voilà, il l'évoque,
c'est ça. Vitesse,
c'est pas Antoine Vitesse?
Non, il me semble pas.
Il me semblait.
Le petit Antoine, ah oui, je pensais que c'était lui aussi.
Antoine Vitesse. Bon,
on va écouter Sarah Bande. qui est dans le spectacle joué par Marceau Beyer au violoncelle, un moment de pause musicale qui fait du bien d'ailleurs par contraste avec ses scènes très, très bruyantes avec beaucoup d'acteurs. Une sarabande de la deuxième suite et de la troisième suite pour violoncelle seul par Pablo Casals.
Donc Gérald, quand ce morceau intervient, rappelons la chose, c'est une sorte, je ne sais plus quel est le terme, c'est diégétique, disons, ça se passe dans la pièce elle-même. Nous sommes fin de première partie, fin du mois de mai. Jean-Louis Barrault, pour essayer peut-être de calmer un peu les passions ou je ne sais, fait venir le jeune Paul, qui est donc Paul Tortelier, grand violoncelliste, qui interprète une sarabande extraite de la deuxième suite, je crois, pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Il y a donc une autre parole, peut-être transition que l'on pourrait amener, mais ça va être assez bref. Une autre parole, une autre réplique est prononcée pour calmer les ardeurs, c'est refroidissez les robinets.
Ouais,
ça t'a amusé pour faire une transition sur...
Interloqué, interpellé par ces 14 directeurs de salle qui sont que des hommes. Quoi.
C'est une pièce trop burnée, c'est ça. Il manque un peu de présence féminine. Ouais.
Mais c'est un problème de l'époque d'ailleurs. Alors, je disais à l'instant, nous, on n'a pas connu mai 68. Hein. On n'était pas nés, je crois pas.
Non.
Un mois pas.
Non plus. Ça s'est joué à rien. 10 ans près, hein, c'est ça.
Non, peut-être pas, mais bon, voilà. Et ce qui est intéressant avec ce spectacle de 3h40, c'est que si on est très jeune, on apprend.
Ouais.
On apprend ce patrimoine commun dont tu parlais, dont vous parliez au début de l'émission. Et puis, quand on a vécu, c'est aussi intéressant parce que j'ai vu dans chez les spectateurs, les rires qui fusaient parfois. Il y en a qui ont revécu des choses et à qui ça a beaucoup parlé en termes de souvenirs.
Mais bien sûr. Ouais.
Parce que il y a quand même un travail de reconstitution d'une ambiance, de la prise de parole. Mais quand on l'a pas vécu, c'est difficile d'en parler.
Bah ouais, et puis c'est toujours un peu difficile en fait d'en parler aujourd'hui encore de mai 68. On sait jamais trop, enfin moi je sais jamais trop vraiment quoi dire.
Il y a eu les grandes commémorations de 2008.
Ouais, je trouve que ce qui est pas mal, ce qu'on disait, c'est ce qui est intéressant aussi avec cette pièce, c'est que je trouve que le théâtre est le lieu idéal quand même pour. C'est un prisme, enfin c'est formidable.
Réfléchir.
Ouais, voilà. Vraiment, c'est vraiment très bien. La façon de prendre, voilà, quand ils viennent prendre l'Odéon, qu'ils veulent tout abolir, c'est-à-dire
faire
aussi
table rase.
Ouais, faire table rase, ouais, vraiment. Et du coup, on en arrive à des pratiques, enfin la pratique du libéralisme complètement totale en fait. Et la question, c'est quand même, ça pose la question, quoi. Surtout par rapport à l'art, en fait.
Différentes formes de libéralisme.
Oui, moi, je ne suis pas contre cette idée. On en parlait, je crois, à l'entracte avec un artiste plasticien, me semble-t-il, qui laissait un peu entendre. Ou alors, ce sont des choses que je me suis dites aussi, peut-être. C'est le fait qu'on pourrait penser que la pièce fait pas tant fausse route, mais disons, ne traitant de la chose qu'avec un point de vue de théâtre, ben elle passe à côté d'un paquet d'autres choses. Oui, mais quand même, moi, je pense ça, Maxime, que le théâtre est vraiment... non pas l'art premier, enfin, ou disons, ou l'art numéro un, si on n'établit pas de classement, mais
Roger
quand même.
Roger Planchon le dit dans la pièce, il dit le théâtre est l'art politique par excellence, parce que c'est aussi la rencontre de tous les arts, en fait. Mmh. Et il y a cette force-là avec le théâtre, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, voilà, se faire rencontrer tous les arts, en fait. La poésie, quoi. Enfin, aussi, il y a ça, je vais pas tout dire comme ça, tout déballer, mais effectivement, c'est un lieu de rencontre formidable. Et évidemment, de débat incroyable, en fait.
Et on voit cette ébullition d'idées, d'utopie, puis de rapport aux ouvriers aussi. Le manuel et l'intellectuel, c'est un vrai
bien
débat
sûr.
À l'époque.
Alors quand, là, j'ai un personnage qui joue, qui au bout d'un moment, donc il est en train de se faire complètement manger d'ailleurs par le théâtre, il commence à être costumé, ils savent pas trop pourquoi, et y a une des phrases, c'est ça, c'est-à-dire que nous voulons un homme intégré, sans spécialisation. Donc plus d'artistes, plus de culturels et de non-culturels. Là, c'est la fin de l'art et de la culture, séparés de la vie. Il commence à dire
c'est toute l'utopie de Fluxus, réconcilier l'art et la vie et tout ça.
Mais alors, plus de spécialisation,
performance et compagnie.
Qu'est-ce que ça veut dire au final?
Donc c'est une pièce très importante pour ce qui est d'un aspect pédagogique, mais également un aspect, réflexif, un aspect théorique. Enfin, disons, ça nourrit la réflexion. Ça.
À quoi sert le théâtre, en gros?
Ça enrichit.
on peut aussi. Ça pose aussi.
À quoi sert la société?
Est-ce qu'il y a d'autres pièces? Moi, je vous pose une question à l'instant. Je ne sais pas. Je connais pas assez le théâtre pour ça. Beaucoup de pièces de théâtre jouent cette mise en abîme du théâtre dans le théâtre.
Il y a quand même.
Cinéma, ça y va.
C'est vieux comme le monde. Enfin,
on avait. Il y en a d'autres connus.
Il y a une pièce de Pirandello, en quête d'auteur.
Ah oui, voilà. Mais une des moins connues qui a été quand même aussi faite par Christian Scaretti, qui s'appelle. Moi, j'ai beaucoup aimé cette pièce, qui est une pièce. J'ai oublié le nom, mais c'est le Grand Théâtre du Monde. Voilà, qui a été représenté aussi. Et là, on a cet abîme-là aussi du théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire que c'est le monde, Dieu fait appel au monde, et puis on voit les hommes, et puis les hommes viennent jouer leur rôle, en fait, de paysans, de rois, etc. Donc depuis toujours, en fait, il y a eu du théâtre dans le théâtre. Ça existe depuis tout le temps. En fait.
Et au cinéma.
Du monde, au cinéma.
Cela est même dit. Cela est dit dans la pièce par un personnage qui est assez stupéfiant. C'est dit dans la pièce par le personnage de l'auteur. Denis Guénoun est donc présent sur scène dans la pièce. Mais en fait, ce n'est pas Denis Guénoun. L'auteur est une femme. Et d'ailleurs, il y a un passage. Disons, c'est une seule femme qui discute avec sa dramaturge. Et donc, il y a un passage où l'auteur explique justement ce qui est en train de se passer. Le dialogue des morts, le dialogue de Gaulle et de Malraux, l'auteur intervient pour dire, bon, alors je sais que ça peut sembler un peu surprenant, mais déjà dans le théâtre antique, il y avait des passages où dans la pièce où l'auteur se permettait de faire tenir des propos par certaines personnes. Il désignait d'ailleurs les gens dans le public parce que parfois les personnes nommées étaient présentes dans le public, c'était des hommes politiques ou autres, et l'auteur pouvait ainsi, par ce biais, formuler un avis ou indiquer, enfin du moins faire part d'un certain message. Et donc là, c'est amusant puisque l'auteur est présente sur scène. D'ailleurs, je crois qu'elle le dit, il me semble qu'elle laisse entendre qu'elle devrait être un homme. Ou alors c'était peut-être dans le texte, mais ça a été coupé, je crois, à l'adaptation.
Il me semble le truc a été enlevé.
Tout est fictif. Il n'y a aucun propos qui est réel, historiquement prononcé. Ouais. La plupart du texte est fictif.
L'idée revient très souvent.
Mais aurait pu être.
L'idée revient très souvent. À quel degré cette pièce est-elle un documentaire?
Mais c'est ça qui est intéressant. Elle dit peut-être plus de choses vraies en ne rapportant pas de propos.
Le réalisme, chèrement.
Elle a une dimension historique quand même.
Le réalisme, cher à mot passant, c'est-à-dire donner l'impression du vrai, mais pas forcément dire le vrai. Mmh. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de dire le vrai en cette fin d'émission en écoutant des chansons du Forçat, les numéros 1 et 2 beaucoup. On écoute et puis on voit.
Et puis je veux juste aussi dire un truc, c'est que là, je suis en train de lire un livre que j'adore, que j'ai envie de partager. C'est un livre de Jean-Pierre Siméon, ça s'appelle La poésie sauvera le monde. Voilà, c'est un essai et c'est très important, je pense. Voilà. Oh.
La poésie sauvera le monde, très bien.
Moi aussi, je parlerai de ça.
Bon, d'accord. Maxime, vous souhaitez nous faire écouter les chansons du Forçat, pour quelle raison?
Parce que j'adore.
Ah, d'accord. C'est une très bonne raison.
Parce que j'adore ce qui est dit et ce qui est chanté. Voilà.
Allez, on approche de la fin d'émission, mais on a quand même le temps d'écouter les chansons du Forçat. C'est Gainsbourg, c'est ça qui interprète?
C'est ça, ouais.
Dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. Un preneur de large, un joueur de courant d'air. Un repris de justesse, un éternel évadé. Un repris de justesse, un éternel évadé. Un faiseur de trous et un casseur de verrous. Un sauteur de murs et un forceur de serrures. Un sauteur de murs et un forceur de serrures. Un faiseur de labels et un limeur de barreaux.
Ce n'est pas Jean-Louis Barrault qui est évoqué
non,
à l'instant.
Non, ce sont les barreaux.
Ça n'a rien à voir, ce sont les barreaux.
Briser.
Mais pourquoi
briser.
Est-ce que je parle de Jean-Louis Barrault? Parce que c'est l'une des figures principales, c'est celui par lequel la pièce s'ouvre, la pièce mai, juin, juillet, qui est donnée actuellement au TNP de Villeurbanne à 19h30, puisque la durée est un peu particulière, c'est un peu long, mais on ne voit pas le temps passer. Maxime est encore avec nous pour ces dernières minutes. Nous prenons sur le blues des canuts, qui n'aura pas lieu aujourd'hui. D'ailleurs, Pascal donne rendez-vous à chacun de ses auditeurs et chacune de ses auditrices. Il m'a demandé de formuler la chose ainsi. Il donne rendez-vous mercredi prochain à 15h.
Nous, on prend du temps à personne.
On déborde un petit peu, ouais, mais quand même, on déborde un peu pour Gérald. Encore deux mots sur cette pièce
ou oui,
sur,
le sous-titre des tracts, hein, ils ont fait un beau travail de typo, d'ailleurs, rouge, avec des belles lettres qui rappellent mai 68. C'est d'ailleurs, pas rien. Résister, camarades, la Seine est notre conquête. C'est aussi le sous-titre. C'est une commande des Tréteaux de France, une commande d'écriture de France Culture en 2012, avec le concours des archives de l'INA. On a quelques bandes sonores aussi pendant le spectacle. 3h40 avec entracte. À 19h30, vu la durée, à partir d'hier, donc le 26 mai jusqu'au 6 juin. C'est une pièce.
Samedi 6, j'ai indiqué samedi 5.
Qui a un beau souffle 6, épique. Oui, révolutionnaire.
Et alors,
les auditeurs qui auraient vu le film de Peter Watkins en 2x4 heures sur la Commune, il y a des points communs avec ce chef-d'œuvre de Peter Watkins sur la Commune.
Le petit flyer, ce sont des non-acteurs professionnels. Le petit flyer que tu as, Gérald, donne droit à des réductions.
Oui, parce qu'il y aura d'autres. Parlons-en. Jeudi 28, c'est-à-dire demain à 18h, salle Jean Villard, théâtre et politique. Quel rapport à l'autorité? En présence de Christian Skaretic, dont parcours théâtre et philosophique. Un débat, un théâtre et politique, quel rapport à l'autorité?
Oui.
Une journée autour du spectacle qui aura lieu le samedi 30 mai au TNP à 11h, avec des apéros rencontres, etc., des déjeuners avec les
équipes artistiques, à la dernière ligne.
Etc., etc. Une soirée poésie le lundi 1er juin au Périscope.
Arrive à la dernière ligne, Gérald. La dernière ligne, tu ne l'as pas lu.
La dernière ligne.
Il est indiqué qu'avec ce petit prospectus, on peut avoir droit à des réductions.
Sur présentation de ce tract, tarif préférentiel de 8 euros et 13 euros. Au lieu de 13 et 24.
Bon, c'est toujours intéressant.
Il y aura même de la musique aussi, hein, le 1er juin.
Très bien.
Bon, puisqu'on parle de résistance, qu'on a écouté Je suis un évadé, je voulais quand même, comme ce soir vont être panthéonisés Jean Zay, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle Antonioz et Germaine Tillion, j'invite nos chers auditeurs à lire ce petit livre. Vous le procurez, il est pas cher, c'est édition Point, il doit faire 1,5 cm d'épaisseur. C'est un chef-d'œuvre, c'est une opérette à Ravensbrück, dont Germaine Tillion, née en 1907. Travaillé comme ethnologue, très connu dans le sud algérien, résistante, faite prisonnière, Ravensbrück, entre 42 et 45. Bon, Ravensbrück, c'est le camp des femmes. On regroupait toutes les femmes sous le joug des nazis à cette époque. Elle est auteure de plusieurs essais dans Le Harem et les Cousins, Il était une fois l'ethnographie et Les ennemis complémentaires, Guerre d'Algérie. Une opérette à Ravensbrück est l'œuvre la plus surprenante qui soit sur les camps de la mort. Elle a été écrite et même jouée à l'intérieur du camp. Elle redonne vie à... Bon, c'est survivre, notre ultime sabotage. C'est une pièce qui déborde de vie, d'humour. C'est étonnant de penser que des gens, dans de telles circonstances de douleur, de pression, de maltraitance, de violence, aient réussi à écrire cette pièce qui est magistrale.
Et le 1 fait sa une, c'est ça?
Et le 1 fait aussi sa une, forcément. Ils ont osé dire non sur les 4 panthéonisés de tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez écouter les discours de Gaulle et de Malraux, allez voir
mai-juin-juillet,
et puis ce soir, faut pas rater les 40 minutes de notre président. Hein.
Maxime, un mot de la fin, ou on lance le générique? Est-ce que, je sais pas, votre lecture, vous l'avez indiqué, Jean-Pierre
oui.
Siméon, vous l'avez
oui.
donné. Bon,
ouais.
Bah, tout est bon.
J'aurais
alors.
J'aurais pu justement citer un de ces passages, comme on parle de Caen, justement. Ou voilà.
Bon, bah, très
bref,
bien.
Bref, mais là, je l'ai pas.
Bon, alors, on lance le générique.
La poésie.
Et puis voilà. Il est temps de se dire au revoir, 15h05, on a un petit peu débordé sur le créneau de, du Blues des Canuts qui n'a pas lieu aujourd'hui.
La semaine prochaine,
quatre
invités.
Non, tu te trompes, ce sera le 10, c'est dans deux semaines qu'il y a quatre invités. La semaine prochaine, peut-être Lâche, ou alors peut-être qu'on pourrait évoquer le concert de l'Hostel Dieu, qui donne un concert lundi prochain, lundi dans deux semaines.
Invité surprise alors la semaine prochaine.
Invité surprise, c'est ça. Il y aura donc Pélas et Mélisande qui va commencer en juin, mais bon, ça c'est encore à venir, ce sera à l'Opéra de Lyon. Pour l'instant, eh bien, Célestin, je crois qu'il est un peu relâche, donc courez au TNP pour aller voir cette pièce pédagogique et théorico-pratique, et, enfin du moins
et très pratique.
Très stimulante, voilà, chercher un terme également. Stimulant. Super stimulante, mai, juin, juillet 68 de Denis Guénoun dans les théâtres à cette époque-là. C'est très bien. Maxime, on vous remercie.
C'est
parfait.
Merci à vous.
Bonne fin de journée, bonne semaine à vous tous. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Il y a notamment le Méga Combi à 18h et puis Canu Info à 19h et ainsi de suite. Ciao tout le monde, salut.
Au revoir.